Eva Almassy, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Lisa Bressner ?
Je publiais mon deuxième roman chez Gallimard en 99 et j'ai demandé à mon éditeur, à mon lecteur Jean-Marie Lacraftine de m'offrir quelques livres de la production récente de Gallimard et entre autres il m'a offert cette merveille qui est le quatrième roman de Lisa Bressner, qui est La vie chinoise de Marianne Pech. Alors, aussitôt lu ce roman, et aussitôt j'ai demandé à Gallimard de me faire rencontrer la personne qui a pu écrire une telle œuvre. Et là, ça s'est fait assez vite. Il y avait une exposition Borges aux Beaux-Arts à l'occasion de la parution en Pléiade du deuxième tome des œuvres complètes. Et là, je vois quelqu'un arriver, une toute jeune femme, comme dit Daniel Morvan, le journaliste Daniel Morvan. C'est Confucius réincarné en Lolita. Et donc, je la vois avec un long manteau blanc flottant autour d'elle, toute frêle, et une mini-robe, mais mini dessous. Et alors, je vois aussi, enfin, que j'ai su aussi entre-temps, la différence d'âge. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Et je pensais, ben, aucune amitié n'est possible, c'est presque une génération. Enfin, je suis plus jeune quand même que sa mère, mais voilà, c'est... Et puis non, il n'y a pas d'obstacle avec elle, de même qu'après j'ai lu ses autres livres, et notamment le premier, Sculpteur de femmes, qui est un conte cruel, un conte chinois un peu beaucoup sadique, cruel. Et je lui ai demandé, mais est-ce que c'est Lisa, est-ce que c'est ta grand-mère qui a écrit ça à vous? Ça n'est pas possible qu'une... Alors, elle n'avait même pas 20 ans à l'occasion de ce premier livre. Quelle maturité! Mais comment savoir autant sur ce que c'est que l'humain, sur ce que c'est que les relations homme-femme, mère-fils, puisqu'elle est fille unique de sa mère. Mais là, dans le premier livre, c'est une mère qui dirige, qui instrumentalise son fils, qui devient un tueur en série et qui enlève les yeux des femmes pour en nourrir une sorte de sculpture. Tout ça sur fond du XVIIe siècle, en Chine, dans la montagne perdue d'un pays reculé, et sur fond aussi de rivalité entre deux villages, sur fond aussi de jésuites qui se retrouvent en Chine. C'est d'une complexité folle, c'est d'une simplicité incroyable pour le lecteur, puisque c'est d'une très grande clarté dans l'expression.
Et tout ça à moins de 20 ans, c'est effectivement étonnant. Mais qui était vraiment Lisa Bressner, donc sinologue, écrivaine, mais bien d'autres choses encore?
Beaucoup, beaucoup d'autres choses encore. Et d'abord, une très belle personne, déjà physiquement magnifique, d'une très grande beauté et gracieuse, puisqu'elle avait aussi fait de la danse classique. Alors, à la fois le talent et de l'expression corporelle, mais aussi un apprentissage qui s'est fait là-dessus. Et je dirais que c'est la même chose spirituellement parlant. Un talent, ça se voyait, quoi. C'est la personne tout simplement la plus manifestement talentueuse que j'ai rencontrée. Or, j'ai la chance d'avoir fréquenté une certaine densité de personnes intelligentes ou avec des talents particuliers. Et elle était au-dessus de tout ça, une fulgurance... donc beaucoup de talent et énormément de travail là-dessus. C'est là, j'ai appris par sa mère et par d'autres personnes qui la connaissaient jeune que elle a choisi d'apprendre la langue chinoise à l'âge de 12 ans pour notamment mieux écrire le français. Alors, ça peut paraître totalement paradoxal, mais c'est qu'elle a eu en rédaction toujours de très bonnes notes pour l'originalité et de moins bonnes parce que c'était hors sujet, parce que c'était ailleurs, parce que c'était pas clair, un paradoxe pour après. Et son professeur de français, Jannick Hubert, qui s'est retrouvé aussi psychanalyste, hein. Quelle chance, quel mélange chanceux pour Lisa Bressner, qui lui a dit « Mais peut-être que cette expression-là du trop-plein se passe par l'apprentissage d'une langue avec une structure totalement différente et par la discipline des idéogrammes. » Et donc, ça s'est révélé totalement payant dans le cas de Lisa, puisqu'elle a pu canaliser ses talents multiples, ce foisonnement imaginaire, et éprouver le choc de la rencontre entre son monde à elle, intériorisé, et puis ce monde vaste et plusieurs fois millénaire, mais qui s'écrit à travers de signes et une grammaire totalement différente. Et c'est ce qu'elle a fait à partir de là, très tôt, la vocation d'écrivain, et très tôt, cette expression riche, cette pensée, je vous dis, miraculeuse, qui était d'une telle maturité qu'elle absorbait, et puis après, elle mettait ça en forme. Elle faisait ça fleurir.
Et elle faisait réellement corps avec la langue chinoise. Et quand on peut dire corps, c'est dans tous les sens du terme.
Notamment parce qu'elle calligraphiait. Et donc, peut-être calligraphie dense, et en tout cas calligraphie, le geste, puisqu'il y a aussi talent visuel, notamment à travers des dessins, et talent visuel pour la calligraphie. Je pense qu'elle a, enfin je crois savoir qu'elle a même remporté un prix à un concours de calligraphie à Pékin. Et vous voyez, c'est faire corps, c'est à la fois faire corps, c'est-à-dire, et qui m'intéresse pour ma propre littérature, écrire sur le corps dès le premier livre, et ensuite, donc, l'érotisme est là. On va peut-être en parler sans doute de l'exposition Lisa Bressner, mais il y a toute une petite salle qu'on a appelée érotisme et érudition, entre nous héros et rues, pendant l'installation. Donc héros et rues, puisque à la fois dans son érudition, elle ne dédaignait pas de regarder ce qu'il en était du corps en Chine et de l'érotisme des sages.
Mais à propos d'érudition, elle fallait être sacrément gonflée pour à son âge traduire Lao Tzu et en plus lui inventer une vie.
Alors traduire, elle a traduit beaucoup de chinois, de poètes antiques et jusqu'à la littérature contemporaine. Et donc, mais les sages et la Haute. Alors la Haute, à la fois, elle lui invente une vie. Donc, une femme pas très commode et qui fait quoi? Alors que Lao Tzu écrit ses mémoires en quelque sorte sur du tissu pour faire la lessive. Donc, non seulement inventer, mais aussi supprimer. Voilà, donc Lao Tzu chez Actes Sud, après le changement d'éditeur, parce que les premières œuvres paraissent chez Gallimard, et Lao Tzu chez Actes Sud. Et c'est procéder, entre guillemets, dans le bon sens du terme, puisque c'est un moteur d'écriture, où elle met quelque chose en place, après elle fait disparaître comme une magicienne sous nos yeux. Elle a fait ça aussi dans une pièce pour France Culture, une pièce écrite pour les jeunes, qui pour une fois n'est pas chinois, en tout cas dans son origine, puisque c'est pas un jour sans une ligne, et c'est l'affrontement de deux peintres et qui essayent de, c'est un concours, et il essaie de tracer le trait le plus fin possible, et l'un essaie de couper en deux ce que l'autre a fait, et c'est n'importe quoi, c'est vraiment la surenchère, et arrive à la fin la femme de ménage avec son plumeau, efface ça, et c'est elle qui trace du coup l'humble et l'ignorante qui va tracer le trait le plus fin. Et ça, c'est très caractéristique de l'esprit de Lisa, le jeu, l'humour et puis la surprise. Une sorte de sens de la justice, quoi.
Remettre les choses à sa place. C'est le chinois, donc, qui lui a donné l'amour et le goût de jouer avec les mots.
Oui. C'est donc en faisant un tour énorme, un tour du monde et un tour même des mondes, qu'elle revient à son talent le plus grand, à mon sens, même si, bon, elle a jusqu'au cinéma, enfin, elle avait vraiment de la danse au cinéma, en passant par donc les arts visuels et la calligraphie. Elle avait de multiples talents, encore une fois. Mais le plus grand, ce qui m'intéresse le plus, c'est sa capacité d'écrivain. La chose à souligner, parce que d'autres ont écrit des œuvres précoces, d'autres ont écrit beaucoup, parce que en 15 ans d'écriture, parce qu'elle est morte jeune, mais de 20 ans à, en tout cas 15 ans de publication, de 20 ans à 35 ans, c'est plus de 40 ouvrages quand même, même s'il y en a qui sont courts, qui sont pour la jeunesse, des livres pour enfants, ou d'autres qui sont pour l'apprentissage du chinois, qui sont des ouvrages de pédagogie. Il y a beaucoup de romans, il y a des contes, il y a il y a une thèse, un ouvrage d'érudition mélancolie du souverain. Voilà, elle était talentueuse comme écrivain. Et ce qui est unique à mon sens dans l'histoire des lettres, c'est la densité de ses 5 premiers livres, et notamment les 4 premiers. Puisque en l'espace de 4 ans, elle écrit 4 livres extrêmement différents. Sculpteur de femmes, dont on a parlé, qui est un conte. Le deuxième, Ma tendre ennemie, qui est sur la première guerre sino-japonaise. Un thème qui reviendra aussi dans une bande dessinée, parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais il y a aussi un scénario de bande dessinée. Ma tendre ennemie est un roman qu'elle a élaboré oralement avant la parution du premier. Donc le premier est accepté chez Gallimard par Pascal Quignard, et avant qu'il ne soit imprimé, devant un micro, un enregistreur, comme aujourd'hui pour cette interview, sauf que je crois bien qu'elle était cachée sous la table de la cuisine dans le 13e arrondissement, Chinatown, dans leur petit appartement, sa mère et elle, et elle se met là et elle s'enregistre pour comme elle dit sur cette bande, sur cette cassette, ne pas se retrouver le ventre vide. Et donc avoir déjà un deuxième texte avant que ne paraisse le premier. Et ma tendre ennemie, j'ai comparé élaboration orale, tout y est déjà. Après, il n'y a qu'un vernis, il n'y a qu'une très belle écriture qu'elle a posée là-dessus. Donc deuxième roman. Très très beau roman. Après, troisième roman, Hong Kong Souvenir, une farce sur le maoïsme, quelqu'un qui émigre à Hong Kong, qui quitte la Chine populaire, où on collecte notamment les excréments humains. Vous voyez la satire politique, parce que tout doit être valorisé. Et il y a un jeune homme qui s'aperçoit que ces excréments, sa merde, sent le magnolia et on en fait un parfum et il s'enrichit comme ça. Et après, il devient très très riche et il voudrait que quelque chose, enfin j'ai oublié quoi, si ça a rapport encore avec sa production de parfum de magnolia, mais se retrouve sur le premier satellite dans l'espace. Incroyable. Et là encore, je ne sais pas, elle a 22 ans quand elle fait ça. Donc, maturité politique, courage invraisemblable de casser à la fois son image, de faire autre chose, qu'y compris son éditeur et son public attendent d'elle, aller très très loin. Et puis voilà, quatrième roman. Celui pour lequel je voulais la connaître, et c'était, je bénis ma chance de l'avoir connue, cette merveilleuse Lisa, La vie chinoise de Marianne Pêche. Ça, c'est un roman qui se passe entre le 13e arrondissement, où les Chinois font des mariages blancs et se prostituent. Et ça, c'est une des sœurs, Marianne, et Pêche, qui vit aux États-Unis, ou l'inverse, parce que Marianne Pêche, à la fin, les deux sœurs n'en feront plus qu'une, qui est romancière à succès et future scénariste à Hollywood, qui vit aux États-Unis, et puis qui viendra pour le mariage, le énième mariage de sa sœur, qui se marie en rouge, comme on le fait en Chine, mais comme on le fait aussi dans le Chinatown de Paris. Et après, elles se retrouveront à Hiroshima, où leur grand-mère était une diva. Donc, à la fois Chine, le Japon, ce grand écart, donc, elle était coutumière en tant que danseuse. Il y a une magnifique photo d'elle où elle fait le grand écart. Et elle fait ça aussi, y compris dans l'écriture, dans ses romans. Et donc, à la fois Chine, le Japon, la France, les États-Unis. Mais les gens vont éprouver ça dans leur corps même. Vous avez posé la question, le corps et l'écriture, le corps de l'écriture. La Chine éprouvée dans le corps, mais c'est ce qui se passe. Et puis, il y a des motifs, des leitmotifs, comme l'oreiller. L'oreiller, donc Claudie Robet a fait coudre un exemplaire pour l'exposition Lisa Bressner, Les chemins d'une œuvre à Nantes. Cet oreiller qui se retrouve dans plusieurs livres, et notamment dans le seul écrit autobiographique de Lisa, qui est Pékin à mon jardin. Quel beau titre! Pékin à mon jardin chez Actes Sud, où il y a un père qui n'est pas là, qui disparaît et qui, dont le retour est ardemment désiré. Et ce sont des pleurs, ce sont des larmes qui vont peut-être creuser un chemin à travers l'oreiller, mais qui va ces larmes vont traverser toute la terre pour arriver par ce tunnel, par ce voyage à travers la terre en Chine, où peut-être le père se trouve, ou peut-être seulement dans une boutique chinoise en bas de la rue, où il y a un cadeau non récupéré pour ses 13 ans. Et voilà. Et puis un autre oreiller qui se retrouve peut-être empesé de sperme des amants dans la vie chinoise de Marianne Pêche. Donc cette jeune fille qui se prostitue ou qui se contracte pour de l'argent des mariages blancs pour faire venir des Chinois. Et cet oreiller... qui est empesé aussi d'encre, où on écrit, parce qu'on écrit sur n'importe quel support. L'écriture, et notamment l'écriture des idéogrammes chez Lisa Bressner, c'est omniprésent. Elle m'a dit, il y a 40 000 idéogrammes connus, donc j'ai potentiellement 40 000 romans à écrire, parce que chaque idéogramme peut-être un roman.
Ce qui prouve bien que c'est la Chine qui a été le déclic de cette vocation d'écrivain, la Chine, les idéogrammes et toute sa civilisation. Alors comment vous avez travaillé pour monter cette exposition à la Bibliothèque de Nantes ?
Moi, j'ai vraiment travaillé à la source, dans l'écriture même de Lisa. Et puis après... puisait aussi quand même dans sa vie. Donc j'ai conçu l'exposition en deux parties. Le monde de Lisa, qui est, pour faire très bref, c'est l'Asie, mais c'est aussi bien autre chose, mais disons que c'est l'Asie. Et il y a d'ailleurs une carte de l'Asie déployée au sol même de l'exposition pour être d'emblée dans l'œuvre. Et on voit le parcours de certains de ces personnages. Tout n'est pas dessiné, mais la montagne Kunlun donc ce premier livre... sculpteur de femmes, et puis après il y a le parcours jusqu'à Hong Kong pour Hong Kong Souvenir, etc. Il y a le passage du petit angle d'une série de magnifiques albums chez Actes Sud Junior, notamment sur la Grande Muraille de Chine. Donc tout ça, c'est l'œuvre posée là pour qu'on y pénètre et pour qu'on puisse faire tout un parcours. L'exposition s'appelle « Le titre n'est pas moi ». Il est de Anne Lemoine, qui était la responsable de la bibliothèque municipale de Nantes, et qui m'a d'ailleurs demandé d'être la commissaire de cette exposition, et j'aimerais lui rendre grâce, qui a donné ce titre très beau, Lisa Bressner, « Les chemins d'une œuvre ». Donc ça, c'est au rez-de-chaussée. Et puis après, à l'étage, il y a le... Donc ça, c'est le monde selon Lisa, et il y a le monde de Lisa à travers la danse et son parcours personnel. Elle avait habité Nantes dans trois endroits différents, donc l'escalier qui sépare les deux, on va voir ces trois habitations photographiées pour faire le pont entre ces mondes à elle. Et la Chine, donc c'est à la fois à travers l'écriture, à travers les sagesses, à travers l'histoire de la Chine, à travers la littérature de la Chine, et cet immense miroir dans lequel elle a pu se regarder. Peut-être qu'elle a... Elle avait dansé Alice, et il y a un côté Alice au pays des merveilles chez Lisa. Et donc peut-être que tout ce vaste monde qu'est la Chine était une sorte de miroir à la fois et le pays des merveilles pour elle, de s'y perdre et de s'y retrouver autrement, plus facilement que dans une vie qui a été pas mal ballottée, malmenée, difficile. Voilà.
la Chine comme point d'ancrage. Eva Almassi, merci.